sempre a caccia delle streghe. Dico no, non è una cosa seria. E così è, se vi pare, ma lasciatemi sfogare. Non mettetemi alle strette, con quanto fiato in gola. Vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura. Sono solo canzonette, non mettetemi alle strette. Sono solo canzonette.
Sono solo canzonette.
Une émission sur la chanson italienne présentée par l'association Inis Italie-Nord-Isère.
Par Jean Guichard et Alain Pongan.
Bonjour, bonjour Laurent, bonjour Chantal qui remplace Jean au pied levé aujourd'hui.
Oui, enfin, un petit remplacement hein, parce que c'est vraiment Chantal du pied levé. Hein.
Chantal est une chanteuse en plus.
Oui, mais bon.
Donc, on va reprendre notre cycle d'émissions sur la chanson italienne. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un événement récent qui était le festival Ande Balicante à Rovigo, qui est à quelques kilomètres de Venise, disons 70 kilomètres de Venise, à quelques encablures du delta du Pô.
Voilà. Oui, alors Alain, peut-être que tu peux nous éclairer sur le sens de ce titre.
Dois-je éclairer ?
Voilà.
Pourquoi Ande Balicante ? Bon, déjà, ce n'est pas de l'italien, c'est une langue vénitienne et plus propre d'ailleurs à la région de Rovigo. En fait, ce titre a été inspiré par un ouvrage qui s'appelait Ande Cantebali, c'est-à-dire avec les mêmes termes mais inversés, qui, grosso modo, veulent dire les balades, les chants et les danses, hein, et qui, donc, avait été, cet ouvrage qui était paru en 1968 par Antonio Cornoldi, qui était né puisqu'il est décédé en 1973, qui était né en 1902 à Fratapolesi, né à quelques kilomètres de Rovigo. Alors Antonio Cornoldi, c'était un écrivain, musicien, chercheur, ethnomusicologue, qui a collaboré aussi à plusieurs revues d'art et qui a beaucoup travaillé donc sur la chanson, la musique populaire de la Vénétie en général et de cette région polésine en particulier. Cet ouvrage qui avait été écrit en 1968 a été vendu en de nombreux exemplaires. Et l'association La Minelliana, qui est l'organisatrice du festival, qui est une organisation qui fait revivre le patrimoine local, a eu la bonne idée de le rééditer il y a quelques années, de rééditer l'ouvrage et qu'on peut se procurer en Italie. Mais si ça intéresse les auditeurs, on peut leur le procurer. Ou vraiment, sont passés, mais vraiment de façon très... universitaire et ethnomusicologue.
Oui,
aidant.
Voilà ce que je voulais te demander.
Le sens des chansons, l'origine.
Sur le contenu.
Sur
la rythmique.
En fait. C'est un balayage, c'est un collectage au départ.
C'est
un balayage de toute la chanson locale, on va dire. Mais locale de toute la Vénétie.
Essentiellement de la Vénétie.
De la Vénétie, voilà. Et donc, cet ouvrage faisant référence. Le président de la Minelliana, M. Mario Cavriani, à partir de cet ouvrage qu'il connaissait et qu'il a fait rééditer, avait envie d'organiser quelque chose autour de la musique à Rovigo. Rovigo, qui est une ville de 50 000 habitants, où il y avait quelques manifestations de musique classique et de jazz. Mais il voulait lancer quelque chose sur cette musique, entre guillemets, populaire. Et il a fait une rencontre intéressante, celle de Roberto Tombesi, fondateur du groupe Calicante, dont on reparlera tout à l'heure. Et à eux deux, ils ont décidé de créer ce festival. Et comme il fallait trouver un titre, eh bien, ils ont repris l'idée du titre de l'ouvrage. Voilà pourquoi ce festival s'appelle ainsi.
Bali et Cante, je comprends, mais Ande.
Ande, c'est les balades. Balades dans le sens musical du terme.
Oui.
Voilà. Alors, le programme de cette année, alors en deux mots, ce festival, mais Chantal, tu y as déjà assisté il y a quelques années.
Oui, j'ai eu la chance en 2008.
Voilà, ce festival se déroule sous plusieurs volets, on va dire. Il y a des spectacles le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir, dans la salle de le Cencer, qui est la salle de spectacle de Rovigo. Rovigo était une région où il y avait beaucoup de betteraves à sucre et il y avait beaucoup de domaines qui travaillaient cette betterave et il y avait des domaines agricoles ou industriels pour le travail de cette betterave. Et le Cencer est une ancienne sucrerie qui a été réaffectée en salle de spectacle avec très bon goût et des architectes locaux.
Ah oui,
locaux,
c'est magnifique.
Parce que c'est tout un ensemble où il y a aussi l'université. Voilà. Donc les concerts du soir se déroulent dans cette salle du Cencer. Parallèlement, il y a des ateliers musique et chant.
Et danse,
qui peuvent être sur des instruments, qui peuvent être sur un type d'expression vocale. Mmh. Cette année, les danses étaient des danses bretonnes, tout simplement. Et puis, les ateliers musique étaient réservés aux enfants cette année. Et l'après-midi, en ville, il y a des spectacles de rue sur les places principales sur une place des principales de Rovigo. Voilà. Puis tout autour de ça, il y a les ateliers se déroulant dans un cloître réaffecté là aussi pour les associations. Il y a aussi des ventes de disques, des expositions de luthiers, d'accordéons diatoniques, des bouquins, des albums, enfin tout ce qui peut tourner autour de cette musique, voire quelquefois des expositions. Et puis, c'est un festival qui, en général, est international, qui chaque année a un thème. Et cette année, le thème, c'était simplement le thème qui marque la décennie, puisque c'était le 10e de ces festivals. Voilà. Alors, j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait les apéritifs musicaux le samedi midi et le dimanche à midi, mais on en reparlera aussi là tout à l'heure. On va peut-être, puisque le but de notre émission est quand même de faire connaître et d'écouter de la musique, on va écouter le premier interprète que l'on a entendu à ce 10e festival, donc le vendredi soir, qui est Carlo Muratori, qui est un chanteur sicilien. Et on a choisi un premier titre qui ne pouvait que s'appeler Sicilia, qui est donc son île. Le thème de la chanson, c'est de dire que quand un touriste arrive en Sicile, il est tout de suite émerveillé et il pense que dans le monde entier, il n'y a pas une île qui lui ressemble. Et il parle du Mongibello, qui est un mont qui brille, scintille sous la neige et qui rit « Sicile, Sicile, tu es ma patrie ». Et tout ça fait référence aussi au côté aussi de la Sicile qui se révolte, qui rit, qui souffre. Carlo Muratori est un chanteur très engagé, nous en reparlerons tout à l'heure.
Li fura stare can Sicilia su, la guardano con grandi meraviglie, dicono che non c'è na tutto mondo, n'isola che la nostra s'assimiglia, la conca d'oro a chi da cascia luci, sotto la nivi munci bello ridi, spanni lo faro la soianca luci, l'ana può scurra menso a li papiri. Sicilia, Sicilia, canta la pastorella. Sicilia, Sicilia, gioca la fontanella. L'aria lo soli incuno, l'armo di poesia. Sicilia, Sicilia, tu sei la patria mia. Lascia di pipitiana mattina, la zagara d'aranci e minnuliti, con la voce da duci e inzuccarata, cantano come parrano gli ziti. L'usuli spunta tutta la campagna, d'oro zicchino pari raccamata, l'ipicura è di sopra la montagna,
canu l'irbut s'ambarsama. Sicilia, Sicilia, canta la pastorella. Sicilia, Sicilia, io con la fontanella. L'aria lo soli incuno, l'armo di poesia. Sicilia, Sicilia, tu sei la pace mia.
L'amore è un fuoco che non fa fai, perché in già l'arma cuva e non si vede, più capriccioso di le piccine, fanno si di arridire e soffrire, una picciutetta che ti voglio bene, solo in Sicilia tu la puoi trovare, il cuore affritto d'amorosi pezzi, che da soltanto sapi consolare.
Sicilia, Sicilia, canta la pastorella. Sicilia, Sicilia, io con la fontanella. L'aria lo soli incono, l'arma di poesia. Sicilia, Sicilia, tu sei la pace mia. Sicilia, Sicilia, canta la pastorella. Sicilia, Sicilia, io con la fontanella. L'aria lo soli incono, l'arma di poesia. Sicilia, Sicilia, tu sei la pace mia.
Voilà, Carlo Muratori qui chantait donc en sicilien. Alors, Carlo Muratori a beaucoup travaillé sur la musique traditionnelle, mais il écrit aussi, c'est un cantautore, c'est-à-dire qu'il écrit aussi ses propres chansons qu'il interprète. Il a une carrière assez internationale, puisqu'il a chanté notamment au Québec, à New York, et il a à chaque fois fait salle comble. Et il a eu en 2008 un prix Tenco, qui est un prix en Italie assez prisé, à Sanremo, puisqu'on l'a déjà dit souvent, oui. Il y a le festival de Sanremo, mais il y a aussi le festival Tenco qui récompense un travail sur la chanson, aussi bien la chanson d'auteur que la chanson traditionnelle.
Et il n'est pas mort tout à fait pour rien, alors Luigi Tenco.
Luigi Tenco, ça a permis effectivement d'essayer de primer et de fédérer peut-être un type de chanson. Et Arlovigo, il l'a chanté, enfin disons qu'il a interprété un spectacle dont l'album n'est pas encore paru, mais qui est un spectacle qui était assez lié à l'unité italienne, à la position de la Sicile par rapport à l'unité italienne. Et on a eu la chance de l'interviewer, j'ai pu lui poser quelques questions, et on va entendre une première partie de son interview.
Aspetta. Pronto, vado? Sì. Io sono Carlo Muratori e provengo dallo studio della musica tradizionale siciliana, un'attività che piano piano mi è sempre entrata meglio dentro le vene, scoprire i canti dei carrettieri, dei pescatori, delle donne siciliane, i giochi dei bimbi, insomma questo linguaggio fantastico della nostra cultura popolare che proviene da tutta una serie di meticciati culturali con gli arabi, con i greci, con gli spagnoli, anche con gli angioini, quindi con la Francia. Insomma, la Sicilia è un punto di incontro di culture e quindi sicuramente ha sintetizzato in una maniera unica al mondo sicuramente un modo di cantare, di usare la voce, di usare la parola scritta e cantata, di sintetizzare in pochissimi versi sentimenti grandi come l'amore, come la rabbia. In 8 versi, le ottave siciliane comprendevano un mondo poetico, non c'era una parola in più di un endecasillabo, riuscivano in pochissimo a dire cose per cui oggi giorno abbiamo bisogno di pagine intere, di enciclopedie per poterlo spiegare. Da quel mondo sono arrivato giorno dopo giorno alla esigenza di dire io con le mie parole, con la mia musica, confrontandomi con il presente, con la mia epoca, con la mia gente, raccontare le cose nuove, ma utilizzando uno stile, lo stile che avevo appreso dai miei vecchi, perché ormai i giovani avevano dimenticato tutto, la Sicilia purtroppo, tutto il sud Italia, dopo l'unità ha affrontato un processo quasi di rimozione del proprio passato. Siamo stati trattati dallo Stato unitario come persone sconosciute, quindi pericolose. Quando non si conosce una cosa se ne ha paura, si ha paura del buio perché non lo conosci, quando vedi cosa c'è ti finisce la paura. Il sud Italia non è stato conosciuto come si deve, ma ancora oggi non è conosciuto, e quindi un governo torinese ha combattuto il sud cercando di omologarlo, riportarlo a un'omologazione culturale e politica, senza porsi nessun problema di comprendere la diversità e la ricchezza del sud. Tutto questo ha portato a una rimozione veloce da parte dei miei confratelli della loro memoria. Sono stati espropriati delle loro parole, dei loro significati, del loro Dio. La Chiesa ci ha portato via un mondo di riti e di usanze, come quella di accompagnare il Cristo morto per la strada piangendo la Madonna come una madre di tutti noi, non come la Madonna. Ci hanno espropriato le parole, i canti, e il mio popolo ha ceduto giorno dopo giorno a questa lusinga dello Stato unitario. Io ho imparato e sto imparando da loro la pazienza, il dono del tempo, pacienza e pane, quelle tre doti che la nostra gente conosce da millenni. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ma ci vuole il pane.
Voilà, alors je vais essayer de résumer parce qu'il a dit beaucoup de choses. Et c'est très... Quand on a vu son spectacle, c'est très ressemblant à son spectacle, ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il explique déjà qu'il a beaucoup étudié la musique traditionnelle sicilienne, et qu'il raconte des histoires de pêcheurs, de jeux, des histoires de femmes. Il dit que la musique sicilienne, et la Sicile en général, c'est un métissage, hein, métissage d'arabe, de grec, d'espagnol, aussi d'angevin, et que c'est une sorte de synthèse de différentes cultures qui se trouve même dans la musique et dans la façon de s'exprimer dans les textes, qu'ils soient chantés ou simplement dits. Et il parle notamment qu'en peu de vers, la Sicile réussit, enfin les gens qui s'expriment réussissent à exprimer de la révolte, de la rage, ou toutes les exigences qu'ils peuvent avoir. Il dit que lui s'est inspiré de tout ça, mais essaye aussi de raconter des choses nouvelles à partir de ce qu'il a appris de ses anciens. Par contre, il fait référence à l'unité italienne et au fait que cette unité a déshabillé un peu ou destitué la Sicile de son passé, à tel point que même les Siciliens eux-mêmes, quelquefois, ont un petit peu oublié certains Siciliens ont oublié ce passé. Il parle de tromperie, d'ailleurs, de l'État, oui. De tromperie dès qu'il y a eu une unité italienne, puis il dit que les gouvernants de l'époque, c'est-à-dire dès qu'il y a eu une unité italienne, mais même après, ont continué à mal comprendre et à maltraiter ces gens du Sud, et là il l'étend pas seulement à la Sicile, oui. En disant qu'encore aujourd'hui, le Sud n'est pas reconnu parce qu'on en a peur, et comme toujours, lorsqu'on a peur de quelqu'un, on le croit dangereux. Il dit qu'il ne cherche pas, les gouvernants toujours, à le comprendre, ce Sud, et que petit à petit, on a effacé certains rites de Sicile, qu'ils soient religieux ou non. Et il dit que lui s'est replongé dans tout ça et il a appris la patience. Et il dit qu'il y a trois thèmes importants chez les Siciliens. C'est le temps, la patience et le pain. Le pain parce qu'il faut aussi évidemment se nourrir. On va écouter la deuxième partie de son interview.
Et con quello so adesso grazie anche ai 150 anni della Unità d'Italia, sto scoprendo cose assolutamente da brivido rispetto alla storia del nostro popolo, quanti paesi interi rasi al suolo da una rabbia governativa che non comprendeva il perché i giovani, a cui si chiedevano 7 anni di leva obbligatoria, 7 anni, i ragazzi siciliani non erano mai partiti a sparare un colpo contro nessuno, i Borboni, che era un odioso governo politico, non aveva mai chiesto la leva. Il governo Savoia chiese 7 anni di leva ai ragazzi dal sud, che per una famiglia 7 anni togliere un ragazzo significa bruciare l'azienda, togliere le braccia, togliere la forza, togliere la ricchezza. Molti di loro, per evitare la legge della leva, si diedero alla macchia e al brigantaggio. Da quel momento nasce un'attività contro lo Stato, dove lo Stato non è più, non siamo noi, ma lo Stato è qualcosa di diverso da noi che ci vuole attaccare e noi ci dobbiamo difendere. Lì c'è una radice di questo male che questa nazione non riuscirà a colmare e a risolvere se prima non espierà le colpe di tutti gli avvocati lombardo uccisi dai garibaldini per la fretta di concludere un'impresa che aveva tanto di spettacolare, di televisivo e pochissimo di umano, di politico.
E il fatto di fare ricerche, canzoni di cantautori, sono legate?
Sono legate perché ormai il linguaggio dentro di me è diventato uno. Non c'è più diversità. Fino a qualche anno fa dividevo il mio concerto in parti. Questo è un canto antico della tradizione, questa è una cosa mia. Poi a un certo punto ho capito che è la stessa lingua dei cantastorie, che si è impossessata di me. Io sono un cantastorie che, come quelli dell'Ottocento con i cartelloni dietro raccontavano le gesta di Turiddu Giuliano, o come gli aedi omerici, come io racconto storie. Non riesco a comprendere la musica solo come fatto estetico di trastullo della mente, ma come narrazione che riesce a trasmetterti delle emozioni, a raccontarti delle storie, a crearti una coscienza. È quello l'importante, e la musica può e deve farlo questo. Quindi scrivere oggi un brano che parla del giudice Falcone assassinato dalla mafia è la stessa cosa che poteva scrivere Ciccio Busacca agli inizi del Novecento, quando scriveva le storie sugli assassini della mafia, una volta a favore del brigante, una volta contro, ma insomma è la stessa tecnica. Chiaramente io sono un musicista colto perché ho studiato nei conservatori, conosco bene la materia e la utilizzo per quello che è la scrittura, gli arrangiamenti. Il popolo non aveva queste competenze, per certi aspetti era più rozzo nella scrittura, ma era molto più legato un discorso che veniva da millenni prima. Io questo legame, come tutta la mia generazione, me lo hanno tagliato e lo sto ricostruendo con lo studio, con l'applicazione. Non c'è modo altrimenti, perché a noi ce lo hanno tagliato, dobbiamo ritrovare il bandolo della matassa.
Grazie.
Ecco. Voilà, alors là encore, il y a dit beaucoup de choses, c'est assez fort. Il a parlé tout d'abord, toujours pareil, hein, toujours le même thème des gouvernants, notamment du gouvernement sous le gouvernement de Savoie. Il dit qu'on a demandé aux Siciliens de faire 7 ans de service militaire.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et puis prendre des jeunes pendant 7 ans, c'est inhumain. Et puis c'est enlever toutes les forces vives de l'île, hein, du pays. C'est lui enlever sa richesse. Donc certains jeunes, ne voulant pas faire ce service militaire, dit même les Bourbons n'avaient pas osé. Pour y échapper, ils prenaient tout simplement le maquis et ont commencé à s'affronter.
C'est le brigandage.
Voilà, et ils ont commencé à s'affronter à l'État parce qu'ils se sentaient attaqués par cette.
Il y a de très belles chansons, justement.
Bien sûr, et films aussi. Ah. Et ils se sentaient attaqués par cette.
C'est une période intéressante, donc on pourrait parler en chanson, justement.
Absolument.
Il parle des cantastories.
Alors voilà, alors là, la référence qu'il fait, c'est quand je lui demande, parce que comme il a travaillé sur les chansons traditionnelles et qu'il crée lui-même, qu'il crée de la chanson d'auteur, on va dire. Et je lui demande comment il réussit à cumuler les deux ou à les. Alors il dit qu'il y a absolument aucune différence et il dit même qu'avant il faisait un concert en deux parties, c'est-à-dire une première partie avec de la chanson dite traditionnelle, donc suite à des collectages, et la deuxième partie où il chantait ses propres chansons. Mais maintenant il a compris que tout se résume en fait, il mélange les deux sans aucun problème. Et il dit que raconter des histoires en chansons, c'est faire avancer la conscience, en fait. C'est-à-dire que les thèmes doivent être aussi.
Et thèmes, puis, c'est ce que savent faire particulièrement les Italiens.
Toujours, oui, toujours, ouais. C'est vrai. Toujours.
L'histoire en chansons, raconter l'histoire
d'ailleurs,
en chansons.
Voilà, d'ailleurs, il fait des références, justement. Il dit, par exemple, raconter l'assassinat du juge Falcone, qui est quelque chose de plutôt récent. C'est la même chose. Que ce que racontait Boussac, qui était un grand poète et chanteur ambulant du siècle d'avant, qui, lui, était de temps en temps dans ses poésies ou chants pour ou contre les brigands, entre guillemets. Et il parle aussi de. Parce que Carlo a fait des études poussées, des études classiques, on va dire aussi. Il dit, mais lui qui sort de la, qui sort de la musique dite savante, en fait, il voit pas la différence avec la musique dite traditionnelle. Et pour lui, il y a surtout pas de différence en faire.
Mais bien sûr.
Disant d'ailleurs que lui connaît sans doute la technique au départ, mais que le peuple est beaucoup plus près de la réalité à des tas de niveaux. Alors, il a dit aussi furtivement, il a parlé de l'avocat Lombardo en disant qu'il avait été exécuté par précipitation des Garibaldiens. Alors, il faut savoir que Garibaldi, quand il a débarqué en Sicile, c'était en 1860, le 11 mai, il savait qu'il aurait besoin de l'appui des Siciliens pour mener à bien son entreprise. Et comme il devait apparaître aussi comme un libérateur, libérateur des Bourbons, il a suscité beaucoup de. Mais beaucoup d'espoir, on va dire, chez les Siciliens. Et malheureusement, tout le monde ne le sentait pas. Voulait peut-être des choses rapides et autres. Et il y a eu notamment une insurrection populaire sur les pentes de l'Etna, qui est dans la commune qui s'appelle Bronte. Il y a eu d'ailleurs un film qui a été tiré de ces événements. Cette insurrection populaire a fait 16 victimes. Et les troupes garibaldiennes ont été... c'est les grands propriétaires qui étaient visés, là. Et les troupes garibaldiennes ont voulu rétablir l'ordre. Et ils l'ont fait diriger par Nino Bixio. Et ces troupes ont procédé à des arrestations, à des procès sommaires. Et ils ont proclamé 5 condamnations à mort. Et donc Garibaldi, qui était plutôt considéré là comme le sauveur, a eu, par personne interposée, mais sans doute avec son accord, dans ces condamnations sommaires, il y a eu quand même le chef de cette... Enfin, celui qui était considéré comme chef de la révolte, alors qu'il ne l'était pas du tout, c'était l'avocat Lombardo, qui a été exécuté, alors que lui, il était simplement... il venait d'ailleurs d'être récemment nommé comme maire suite à ses révoltes pour remettre un petit peu d'ordre. Mais il avait sans doute son esprit, qui était un esprit libéral, mais dans le bon sens du terme, était plutôt de canaliser ses révoltes parce qu'il savait que des révoltes sanguinaires comme ça ne mèneraient à rien. Et il a été considéré un peu comme, un peu beaucoup même, comme le chef de cette révolte. C'est pour ça qu'il a été, on peut dire, assassiné, exécuté, mais c'est quand même... un assassinat. Donc il faisait référence à cela, à Carlo, en disant que tant qu'on n'aura pas réglé ce genre de problème, même maintenant, on n'avancera pas. Voilà, alors je voulais passer cette interview parce que c'est un chanteur qui dit des choses très fortes sur la musique et sur la politique, on peut dire. Voilà, le premier soir, le deuxième groupe que l'on a vu, c'est Calicanto. Alors Calicanto, on les connaît bien ici, ils sont venus au théâtre de Bourgoin avant que le théâtre brûle. Et c'est un groupe qui a 30 ans d'existence, qui a été fondé par Roberto Tombesi et qui, là, s'est exercé dans un type de spectacle particulier puisqu'il chantait avec l'orchestre philharmonique de Vénétie, ce qui donne une atmosphère complètement différente à ce qu'ils font d'habitude, oui, mais sur leurs propres morceaux. C'est-à-dire c'est l'orchestre philharmonique qui se calait sur leurs morceaux et qui prenait une autre tournure. Et ce qui est intéressant, c'est que Calicante aussi fait de la recherche en musique traditionnelle. Partant, on voit là le parcours d'une chanson, c'est-à-dire d'une chanson populaire, elle a été refaçonnée par Calicante à un moment donné, elle a des interprètes d'un orchestre philharmonique l'ont eux aussi joué, ce qui est quand même assez extraordinaire. Voilà, on va écouter une chanson de Calicante. Alors là aussi, il n'y a pas de CD encore de l'orchestre philharmonique et de Calicante réunis, mais on va écouter Calicante dans un de leurs morceaux qui fait référence aux 12 mois de l'année. Idor des Mesi dell'anno, eux aussi chantent en langue régionale, et cette référence aux saisons et aux mois est assez historique, est assez courant dans la chanson populaire. Voilà, on écoute donc Idor des Mesi dell'anno par Calicante.
E poi vien in casa con una carga de febbraio non se parla. Mi che son marzo dal vento, una peisa l'ho comprata e mia mamma me l'ha data che la porta in ogni tempo. Mi che son marzo dal vento, mi che son april pulito, quel che fa fiorir le terre, salatina e erbe belle. Campario sei, io sei rondanelle, per che in gabbia noi se tiene, mica son novembre in pene, mica son dicembre freddo, porto neve la fumana, con la piova se in pantana, cerco scarpe non le vedo, mica son dicembre freddo.
Voilà, alors ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est que c'est un collectage au départ, hein, ce texte. Il y a eu deux versions. Il y a eu un poète du 19e et un autre du 18e, Mazzocchi, qui est un autre Ciscato, qui, des collines guinéennes, qui avaient réinterprété à leur façon cette chanson des 12 mois, enfin ce texte des 12 mois, qui a été adapté par Calicante, et encore, comme je le disais tout à l'heure, qui a été joué par l'Orchestre Philharmonique à Rovigo, ce qui est encore une fois intéressant au niveau du parcours de la chanson. La voix que l'on entendait, c'était celle, évidemment, de Claudia Ferronato, qui est la chanteuse de Calicante, dont Roberto Tombesi, le fondateur et directeur artistique aussi du Festival de Rovigo, groupe qui va fêter ses 30 ans d'existence au mois de novembre.
Bel exemple.
Tu voulais rajouter quelque chose, je crois, sur...
Non, rien de particulier. Non, je trouve que c'est un bel exemple de, comment dire, de prendre possession d'un texte ancien et de le mettre aux influences actuelles et d'intégrer toutes sortes d'influences musicales, que ce soit un peu jazz, que ce soit un peu balkan, que ce soit un peu... Voilà, on retrouve un petit peu tout ça et c'est superbe.
Comme le disait Carl Muratori à sa façon tout à l'heure, il n'y a pas de frontière entre les types de musique.
Toute manière, la musique traditionnelle surtout, elle doit vivre. Elle ne doit pas être figée dans un cadre ethno-musical qui fait qu'il risque de mourir.
Tout à fait. Ouais. Et ne pas rester sur un cercle réduit.
Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais.
Alors, on va entendre maintenant un autre grand de la musique italienne et musique traditionnelle qui était lui aussi présent à Rovigo le deuxième soir, c'est Ambrogio Sparagna. Ambrogio Sparagna lui aussi, bon, est musicien, est musicologue, c'est un joueur d'accordéon diatonique assez exceptionnel. Et il est le premier à avoir créé une école de musique populaire paysanne en 1976 en Italie. C'est intéressant. Après, il y en a eu d'autres, hein, mais en 1976, il a été le premier à le créer. Mmh. Il a été aussi l'un des premiers instigateurs du festival de la Notte della Taranta dans le sud. Et donc, amène des milliers de spectateurs et où beaucoup de groupes du sud de l'Italie, notamment, viennent, mais où participent aussi, tu parlais tout à l'heure en aparté de Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Gianna Nannini, Piero Pellù, tous ces gens-là sont venus également se mêler aux musiciens de Tarentelle.
Voilà. École de musique paysanne, ça implique une différence dans les instruments de musique, traditionnelle.
Il y a la différence entre paysanne et traditionnelle.
Oui.
Oui, là,
c'est sur le fil.
Là, sur le fil, et ça serait réservé aux spécialistes. D'ailleurs, il y a
Mais j'ai vu qu'ils utilisaient des instruments particuliers.
Voilà. Et il y a un groupe du Piémont.
Qualifié de pauvre.
Il y a un groupe du Piémont qui passait justement en deuxième partie de Sparagna, et qui a travaillé sur cette musique paysanne et ou traditionnelle et qui a créé un musée à côté de Turin et nous ont montré quelques instruments, mais vraiment paysans, c'est-à-dire qui étaient trouvés complètement dans les fermes, mais des instruments qu'ils construisaient eux-mêmes. La vielle est un instrument traditionnel. Les instruments qu'ils nous montraient, c'était par exemple un bâton avec une vessie de porc. qu'ils ouais, avaient construit eux-mêmes, ouais. Ils ont fait le son avec ça, voilà. Mmh. Alors, pour en revenir à Sparagna, on va quand même l'écouter. Mmh. On va l'écouter dans, dans un morceau qui s'appelle « Canzone per Giacuru Zingaro » et qui, donc là, on l'entendra lui à l'organetto et aussi à la voix. Et à la voix, il y a aussi Lucilla Galeazzi, que l'on connaît bien.
Donc, c'est du Piemonte, là.
Là, pas du tout.
Non,
c'est
quoi?
L'italien du sud, région de Rome.
Ah, t'es toujours le sud.
Et toujours en dialecte. Mmh. Sparagna, avec la très belle voix de Lucilla Galeazzi, qui malheureusement, elle, n'était pas à Rovigo cette fois, mais qui
alors,
a déjà participé.
Je voudrais dire quelque chose. Je trouve que Lucilla Galeazzi, c'est une orfèvre, parce qu'elle a, elle a gardé cette manière de poser la voix, de projeter la voix dans le nez, qui est typiquement italienne, et en même temps, elle a haussé ça au niveau musique savante. Enfin, elle a réussi à faire... Une mixité extraordinaire. Puis moi, j'admire beaucoup.
Elle était à l'école de Giovanna Marini.
J'admire beaucoup.
Et maintenant, elle fait référence.
Elle a gardé cette espèce de manière qui est typiquement des chanteurs italiens traditionnels de poser la voix, mais elle a rajouté tout son côté savant.
Puis elle a une belle présence sur scène.
C'est
très expressive. Alors, le dernier soir, on a eu la chance aussi de voir un groupe espagnol, un groupe de Galice, extraordinaire, personnellement, je trouve. Miladoiro, qui sont très amis avec Alicante. Ils ont 30 ans, eux aussi, de carrière. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et c'est un groupe qui est quasi exclusivement instrumental, mais qui, de temps en temps, fait appel à une chanteuse. Donc, Claudia, la chanteuse de Alicante, qui est de fait, après, chante en espagnol dans ces cas-là. Miladoiro, ça veut dire cailloux, en fait. Ce sont les petits cailloux que semaient les pèlerins quand ils allaient à Compostelle.
À Compostelle, voilà.
Et ce groupe est un des meilleurs groupes d'Europe, hein, comme l'est d'ailleurs Alicante. Et ils ont même joué avec les Chieftains, qui sont quand même...
De toute manière, la Galicie,
ils sont très haut niveau.
Elle est toujours présente au Festival interceltique de Lorient. Toutes les années,
absolument.
Ils y sont.
Mais eux, ils ont participé, d'ailleurs.
Oui, certainement.
Donc, on va les entendre. Un groupe vraiment, moi, qui m'a beaucoup plu par sa musique et puis, là encore, des gens, on va dire, normaux. Et ça fait du bien.
Oui, et puis ils ont une cornemuse qui ressemble beaucoup à la zampogna.
Voilà, mais on va entendre la cornemuse de José Ferreiro. C'est aussi, sinon, le groupe est composé de Nando Casal, Anton Seoane, Mendes, Garcia Rey, et puis d'un Roy Casal et d'un violon qui est britannique, Monsieur Harry, et Manu Condé, elle est là dans un morceau Voiria Compostelle avec la voix de Claudia Ferronato.
Maria entra.
Voilà, alors comme tu l'avais vu quand tu étais à Rovigo, et il y a des apéritifs musicaux qui sont des moments sympathiques, non ?
Oui, c'était super.
Où les gens boivent, mangent, mais écoutent les musiciens qui sont là. Alors, souvent, ce sont les musiciens qui ont participé aux ateliers, puis quelquefois, ce sont des musiciens qui viennent participer à l'apéritif musical et dans des genres là aussi musicaux qui peuvent être différents. Et cette année, on a eu le droit à Alessandro Tombesi, qu'on va écouter. Alors, Alessandro Tombesi, c'est le fils de Roberto. D'ailleurs, dans la famille, il y a beaucoup de musiciens, puisque Giancarlo fait partie du groupe Calicanto, son oncle, que sa maman, Suzy, participe aussi au spectacle de Calicanto. Alessandro aussi commence à participer. Alessandro, qui a 17 ans, hein, qui est très jeune, et qui vient de sortir son premier album de harpe, puisqu'il joue de la harpe celtique et d'autres formes de harpe d'ailleurs. Et il joue aussi de la clarinette, du piano. Enfin, c'est un musicien déjà complet qui continue d'ailleurs des études de conservatoire parallèlement à ses études de scolaires traditionnelles. Et on va l'entendre là avec son groupe. Puisqu'il a un trio, on va l'entendre, ou un quatuor quelquefois, mais là on va l'entendre en trio, avec Alessandro Arcolin à la batterie et Francesco Rocco à la guitare classique. Le morceau s'appelle Zephyros et il fait référence au vent du printemps qui tombe sur la lagune. Voilà. Alessandro, qui, si son père a eu avec Calicanto le prix de l'Académie Charles Cros et d'autres prix, lui aussi, pour son premier album, a été récompensé comme meilleure production de l'année sur un premier album. L'année où tu étais venue, Chantal, à Rovigo, c'était l'année de la Méditerranée occidentale, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça, oui.
Il y avait des groupes sardes, espagnols déjà.
Il y avait aussi un artiste marocain, Jamal Wassini.
Extraordinaire.
C'était la musique, c'était axé sur la musique arabo-andalouse.
Absolument. Ouais.
Bon, on avait aussi écouté des chanteurs sardes et ténores.
Voilà, donc des genres musicaux là aussi très
différents. Oui, c'était magnifique.
Et le Jamal dont tu parles, Wassini, vient de faire cet été un spectacle avec Franco Battiato sur la Méditerranée. Franco Battiato est en sicilien, lui étant marocain. Un est un chanteur, auteur, compositeur connu et très diffusé en Italie. Jamal est un musicien et chanteur aussi, puisqu'il chante un tout petit peu.
Ouais, on ne voit pas souvent en France.
Mais on ne le voit pas du tout, d'ailleurs. Et c'est son rêve de passer aussi en France. Il habite dans la région de Reggio Emilia, en Italie. Et ils ont fait un spectacle sur la Méditerranée qui est très coté, en tous les cas. Voilà, alors c'est ce festival d'Eurovig, on espère qu'il durera, parce que cette année, comme les coupes sur la culture en Italie, comme en France, sont des coupes sombres, les subventions étaient beaucoup moins importantes que les autres années. Mais heureusement, le public a bien réagi et est venu. Le premier soir, il y a un public, disons, correct. Et le samedi et le dimanche soir, les salles étaient pleines. Sur les spectacles de rue aussi, lors des apéritifs musicaux. Enfin, et quand on voit la volonté de cette association La Minelliana et de Roberto et des bénévoles, parce qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui font à manger, qui font de la musique aussi, puisqu'il y a le groupe Ande Cantebali, qui a aussi un groupe musical qui joue aussi pendant ce festival, qui fait danser les gens, parce qu'il y a des nocturnes. Enfin, et il y a beaucoup d'événements en fait autour de ce festival. Espérons qu'il dure et que les régions et la ville suivront, parce que ce serait dommage qu'un festival de ce type disparaisse. Mais bon, il faudra qu'on, nous aussi, peut-être, on essaye d'y participer.
Oui, parce qu'en fait, tout le monde y gagne. Hein. Je pense que pour Rovigo, c'est un apport de population.
Rovigo est connu comme ça maintenant, par ce festival qui fait référence à un 10e festival. Ça marque quand même. C'est déjà une date, 10 festivals.
Oui, c'est au mois de septembre.
C'est au mois de septembre, toutes les années, mi-septembre en général. Et chaque année, il y a un thème différent. Il y a eu le thème de l'immigration, il y a le thème Méditerranée orientale, Méditerranée occidentale, l'arc alpin auquel on avait participé aussi, nous, en tant qu'Nice. Voilà, donc bonne route à ce festival. Et on va finir par un groupe français, un groupe berjalien d'ailleurs, qui lui aussi a joué au moment de l'apéritif musical. Ce groupe qui commence à être connu, hein, qui s'appelle Les Migrants, qui est vraiment de Bourgoin-Jallieu. Et on était très fiers qu'ils soient là, parce qu'en plus, ils ont eu un beau succès. Et c'est un groupe qui a été fondé il y a une dizaine d'années, au départ, par Jean-Marc Pidou, et qui lui aussi sortait de la musique traditionnelle, joueur de cornemuse notamment, et qui est maintenant est classé, puisqu'il faut toujours des classements, ce qui m'agace un peu, moi d'ailleurs, en musique actuelle, mais en fait, qui là aussi joue de plusieurs instruments et styles musicaux, et qui vient d'avoir le prix d'auteur-compositeur-interprète de la SACEM, prix Charles Trenet, et qui va partir pour la Chine, là. Donc là, on va les écouter avec Jean-Marc, Fabien, Nejda, Marianne, Colin, et je ne crois pas en avoir oublié, Marianne, Nejda, Colin, Fabien, Jean-Marc, non, et Joël Perrin qui écrit les textes. On va les écouter dans un de leurs titres qui va paraître sur leur nouvel album, Tu désires ta liberté.
Tellement que ta gorge se sèche. sais pourtant que ta liberté, c'est d'abord en toi qu'il faut la creuser. Creuser tes idées, élargir ton cœur, gonfler tes poumons. Avaler du vent, trop de vent, tu sais que c'est l'espace du dedans qui t'ouvrira l'espace du monde. Alors la lumière de tes yeux brûlera les limites, mais jamais ne fanera aucune aile de papillon.
Voilà, bon, oui. C'était pour aujourd'hui. Une oui, prochaine
alors,
émission.
Attends, juste un petit mot. Je voudrais quand même dire que Ephimera a reçu son premier souffle de vie à Rovigo.
Exactement. Et Chantal, qui est à l'origine de la chorale Ephimera de Nice, on peut dire que c'est sur la scène du théâtre de Rovigo qu'on a eu la chance de visiter, qu'est née l'idée de Ephimera.
Tout à fait.
Et grâce en soi rendue à Chantal et Evelyne qui avaient créé la chorale.
On n'y pensait pas du tout à ce moment-là, mais enfin bon. Ça a été le moment de création.
Voilà, au mois prochain.
Et ben voilà.